On ne peut même plus mourir tranquille. Voilà le genre de réaction que j'ai pu entendre en expliquant que partir dans l'au-delà sans laisser de traces sur l'environnement, ça n'existe pas. La mort pollue, elle aussi, et oui. Du coup, nombreux sont ceux qui pensent de plus en plus à des obsèques écologiques. Comme vous, peut-être, alors appelez-nous au 01 45 24 7000 ou posez vos questions sur Internet avec le mot-clé « la TAC ». Nous sommes aujourd'hui dans la Terre au carré avec deux spécialistes du secteur. Inhumation, crémation et alternative à l'étranger, le funéraire, lui aussi, se teinte de vert. Guy Vanctil, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Destination Val d'Oise et la Castagne autour du projet Eurosatory. Europa City.
Europa City.
Je bafouille, excusez-moi.
Vos solutions pour la planète juste après 14h avec un ramassage scolaire à vélo en Normandie. Le dernier épisode de notre série de reportages sur les îles bretonnes. On va à Édic, où l'eau est rare et donc précieuse. Et puis, si vous avez le vertige, eh bien vous allez être servi avec notre invité découverte. On s'envole avec l'aigle Victor qui a filmé les sommets des glaciers alpins. Une première que le fauconnier Jacques-Olivier Travers viendra nous raconter. Valérie Ayastaraï réalise cette émission avec à la technique Ludovic Asselot et Henri Bérec.
Camille Cronier. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Michel Kavnik.
Bonjour.
Vous êtes président et fondateur de l'Association française d'information funéraire. Et bonjour Gauthier Caton.
Bonjour.
Vous êtes directeur des pompes funèbres Caton à Orléans depuis 5 générations, dit votre site, c'est comme dans les séries. Et vous êtes membre du conseil d'administration du Choix funéraire qui regroupe les indépendants du secteur. La période de la Toussaint, c'est l'une des plus chargées pour vous ?
C'est une période très chargée en effet, parce que de nombreuses familles nous confient la célébration et la commémoration de leurs défunts. Donc nous avons de nombreuses tombes à nettoyer, à fleurir, et donc du coup toutes nos équipes sont en effet dans les cimetières au moment où on se parle.
Alors si vous êtes ici tous les deux, c'est pour parler, je le disais, mort et environnement. 610 000 morts en France l'année dernière. La mort, elle aussi, fait du mal à la planète, Michel Kavnik, c'est-à-dire pourquoi ça pollue et comment ?
Un être vivant, lorsqu'il va décéder, il va polluer déjà, même s'il y a inhumation, crémation, parce que durant toute sa vie, il va accumuler du plomb, du mercure, des métaux lourds, des molécules médicamenteuses. Donc, il faut en tenir compte. Par contre, il y a aussi des produits et des services qui devraient être soit extrêmement limités ou interdits, et que devraient choisir ou ne pas accepter les familles, à savoir entre autres les techniques de conservation de formalisation, et ainsi que les types de cercueils.
Alors ça, on va en parler, mais vraiment très factuellement. L'inhumation, la crémation, ça fait des émissions de CO2, par exemple, chaque pratique. Une inhumation, c'est plus impactant pour la planète qu'une crémation, Gauthier Caton ?
Ça dépend. Alors, il y a eu une étude qui a été réalisée par la Fondation des services funéraires de la ville de Paris, qui en effet tirait ce bilan-là. Toutefois, ils englobaient une partie complète donc du monument, du caveau, etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que si on part d'un bilan initial d'un produit non polluant utilisé, puis ensuite d'une inhumation en pleine terre, aujourd'hui, l'inhumation ne provoque pas de consommation de gaz, peu de rejet de CO2. Toutefois, la crémation consomme des mètres cubes de gaz et rejette du CO2. Donc, on ne peut pas aujourd'hui résumer que la crémation est moins polluante que l'inhumation. À périmètre constant, l'inhumation reste en pleine terre moins polluante.
Mais les sépultures, par exemple, les sépultures qui ont donc des caveaux, vous en parliez, avec du béton qui déjà prend beaucoup d'énergie pour être fabriqué, avec également des stèles en granit qui sont souvent importées, ça, c'est quand même, ça a un impact écologique, Michel Kavnik ?
Naturellement, donc les caveaux en béton ne sont pas étanches, et comme je parlais donc de formol, il peut y avoir à plus ou moins long terme une pollution des nappes phréatiques avec les produits qui sont injectés dans les corps des personnes défuntes. D'autre part, c'est vrai que à ce jour, 70 à 80% des granites sont importés de Chine, et c'est une pollution. Et je tiens aussi à signaler que les crématoriums, depuis très longtemps, partout en Europe, avaient des filtres. En France, tout le monde rechignait, et il a fallu une loi en 2018 pour imposer des filtres.
Voilà, parce que on va faire un petit point sur la crémation. Donc, Gauthier Caton, un four, il faut le chauffer à 900 degrés, c'est ça ? Donc, ça utilise du gaz.
Exactement.
Qui va polluer l'air.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Donc, pour rejoindre M. Kavnik, les lignes de filtration, maintenant, sont obligatoires depuis le 2018.
Sur les 180, c'est ça, à peu près, crématoriums en France ?
Oui, la loi est passée avant. En tout cas, la dernière date date d'application était pour 2018, qui a été repoussée à plusieurs reprises. Avec les nouvelles lignes de filtration, les rejets sont limités. Et pour en revenir un tout petit peu sur le sujet des sépultures, en effet, les granites sont en partie d'importation, mais l'offre française a toujours existé. Les caveaux ne sont pas obligatoires.
Oui, ils ne sont pas obligatoires. Voilà. Mais c'est une réalité. Quand on se promène dans les cimetières, on voit des monuments.
Les familles s'orientent vers des granites de couleur. Donc l'importation a répondu à une demande peut-être sans maîtrise des conséquences. Mm-hmm. L'utilisation des caveaux est une demande des familles. Encore une fois, l'information autour de l'impact n'est peut-être pas assez réalisée par les professionnels.
Et les cercueils, alors, ils sont parfois vernis, ils sont parfois teintés. Ça aussi, c'est pas bon pour l'environnement, Michel Kavnik.
En effet, les cercueils généralement sont et étaient avec plusieurs couches de vernis au polyuréthane qui est extrêmement toxique. Maintenant, il y a donc des demandes aussi des familles qui poussent ces entreprises à proposer des cercueils soit en bois avec de la cire d'abeille, soit dans d'autres matériaux tels que les cercueils en carton, mais en sachant qu'il y a une très forte opposition pour ce genre de produit par les professionnels.
Alors justement, sur ce sujet des cercueils en carton, je crois que vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que beaucoup disent « Oh, les cercueils en carton, c'est bien, c'est écolo, etc. » Vous, Gauthier Caton, vous dites « C'est faux, c'est une fausse bonne idée. »
L'étude réalisée par la Fondation des services funéraires de la ville de Paris dit que c'est faux. Suite en crémation, parce que le cercueil en carton peut être inhumé. La majorité des demandes des familles, c'est pour procéder à une crémation.
Pourquoi alors c'est une fausse bonne idée ?
Parce que la consommation de gaz est beaucoup plus importante lors de la réalisation de la crémation.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, le bois a un effet qui réduit la nécessité d'apport extérieur d'une énergie, comme le gaz. Et en fait, le bois fait lui-même un travail de crémation avec la température.
Il aide à la combustion.
Exactement.
Alors que le carton, il brûle
absolument
très vite.
Pas. Exactement.
D'accord. Michel Kavnik, vous entendez cet argument ou pas ?
Alors, c'est un argument. Il y a eu plein d'autres histoires, d'autres arguments. Ce type de cercueil, ainsi que d'autres cercueils, mettons en osier ou en laine, en feutre, sont employés sur l'ensemble de l'Europe, hormis la France. Il y a une véritable opposition, en sachant que lorsque il y a introduction donc d'un cercueil dans le four d'un crématorium, il y a une autocombustion et c'est le corps lui-même qui va apporter de l'énergie. Ce n'est pas un cercueil soit en chêne soit en carton qui va apporter de l'énergie. Donc ça, je n'y crois pas du tout. C'est un mauvais argument.
À vous mettre d'accord. Alors il y a un autre sujet qui vous divise un peu. D'ailleurs, vous en avez parlé rapidement, Michel Kavnik. C'est donc la conservation des corps, le formol. La France, c'est le seul pays avec l'Angleterre en Europe à autoriser encore ces soins de conservation avec du formol. Ça s'appelle la thanatopraxie. L'an dernier, il y a 240 000 défunts qui ont eu des soins de conservation. Pardon, ça fait 40% des morts en 2018 en France. Pourquoi est-ce qu'il y a ce débat sur le formol qui est cancérigène et donc toxique, Michel Kavnik ?
Alors, premièrement, il faut faire très très attention aux statistiques. Ces 240 000, c'est fourni par des fédérations, par des lobbies du funéraire, des grands groupes. Ce n'est pas ça du tout. Ensuite, il y a des techniques de conservation du corps. Vous avez soit le froid physique avec des cases réfrigérées dans les hôpitaux, les chambres funéraires. Et s'il y a un décès à domicile, il peut y avoir donc le froid physique avec de la glace carbonique ou le prêt d'un lit réfrigérant. Des entreprises et maintes entreprises proposent souvent manu militari sans aucune explication des injections importantes de 6 à 10 litres de produits formolés afin de conserver le corps durant un temps limité avant une inhumation ou une crémation. Peut-être une précision, en dehors de la France et de l'Angleterre, partout en Europe, une crémation est interdite s'il y a eu injection de ces produits formolés.
Gauthier Caton, le formol, c'est une réalité et
C'est une réalité dans la pratique. Donc les thanatopracteurs, qui sont donc les praticiens, utilisent en effet des produits à base de formol. Aujourd'hui, je rejoins M. Kavnik sur les conséquences de la pollution. Je ne peux pas le rejoindre sur l'approche commerciale du sujet dans la mesure où le manu militari représente peut-être une frange de notre profession, mais les professionnels du funéraire ne forcent pas la main avant des soins de conservation.
Ça, c'est quand même vendu, entre guillemets, plus cher. C'est tarifé plus cher. C'est deux fois plus cher qu'une toilette simple.
Oui, exactement. C'est proposé parce qu'en fait, la pratique n'a rien à voir en termes aussi bien d'utilisation de produits que de pratique.
Mais c'est indispensable aujourd'hui de...
Non, mais on ne le propose pas en tant que service indispensable. C'est-à-dire que c'est un service proposé. A contrario, on a un devoir de conseil et faute de le proposer, on pourrait nous reprocher de ne pas l'avoir indiqué.
Et ce formol peut polluer les sols parce que les caveaux en béton ne sont pas forcément tous étanches, c'est ça, Michel Cabé?
S'il y a inhumation, le formol va polluer plus ou moins rapidement donc les nappes phréatiques. Et s'il y a crémation, il y aura donc une formation donc et un dégagement de dioxine. La dioxine, dernièrement Rouen, Céveso en Italie, si vous avez bonne mémoire, ceci, le formol donc est absolument délétère à la fois pour les professionnels, les personnes donc qui travaillent dans les chambres mortuaires, ainsi qu'éventuellement pour les familles.
Alors, pour essayer de limiter tout cela, des alternatives sont en train de se développer vitesse grand V, il y a des cimetières naturels, il y a également une technique que vous avez été allé voir au Canada, Gauthier Caton, l'an dernier, c'est l'aquamation. Très rapidement, oui. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, l'aquamation, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, c'est ni plus ni moins, finalement, qu'une crémation par l'eau. Alors, le terme peut paraître surprenant, mais pour résumer, on introduit un corps dans un appareil et la finalité de l'étape sont des cendres. La seule différence, c'est que le corps est immergé dans de l'eau avec du sodium et du potassium et une eau à 96 degrés. Le procédé dure 12 heures et pas 1h30, contrairement à une crémation. Et à l'issue, la famille repart avec une urne et des cendres.
Et ça, c'est plus écologique.
C'est plus écologique parce qu'il n'y a pas de consommation de gaz, que la consommation électrique est, je crois, 3 fois moins élevée que la crémation et que l'utilisation du cercueil n'est pas obligatoire, elle n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on retire en plus l'impact du cercueil.
D'accord, et pas voilà. De vêtements, etc. Donc tout ça.
Ou des vêtements biodégradables, que des choses qui doivent être respectueuses du processus.
Il y a aussi l'humusation, la promotion des techniques qui aujourd'hui sont pas évidemment légales en France, sinon vous en auriez entendu parler. On en parle juste après Guy Vanctil dans un instant. Vous restez avec nous sur France Inter. On attend vos appels 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, Twitter et Facebook. Le mot clé, l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Give passe au vert, ça chauffe donc du côté de Gonesse dans le Val d'Oise autour du projet Europa City, Give.
Oui, parce que vous en aviez parlé ici même au début du mois pendant la marche vers Matignon contre ce méga projet. C'est vrai qu'Europa City, on a parfois l'impression que tout le monde est contre un nouveau temple de l'achat comme seul loisir imaginable, contre le bétonnage des terres pour y mettre une piste de ski sous cloche à la Dubaï. Enfin, tout le monde, peut-être pas. Une manifestation a été organisée le week-end dernier à l'appel d'un collectif des vrais gens, mais avec quand même des encarts publicitaires dans la presse gratuite. 10 ans, sauver la planète, oui, sauver la banlieue aussi. Serait-ce donc encore un dilemme entre justice sociale ou environnementale? Alors on est allé retrouver leur porte-parole, Nordine Matoug.
Voilà, à Gonesse, Arnouville, avenue Jean Jaurès, devant le bar Rapido, café du stade, c'est là où j'ai rendez-vous.
Locomotive de l'aménagement de ces terres agricoles à deux pas de Roissy, Europa City, un projet pharaonique de loisirs, culture et commerce qui veut attirer 30 millions de visiteurs par an.
Bonjour.
Bonjour. Donc moi, Nouredine, j'ai 42 ans, conseiller municipal sur la commune. Je suis à LREM.
Vous avez l'air presque gêné de le dire.
Non, c'est parce qu'en fait, je milite. Je fais des gros appels au gouvernement parce que on a entendu des rumeurs qui disaient que le gouvernement pouvait reculer suite à une pression des écolos sur le projet d'Europa City.
Et du coup, vous avez monté un collectif?
Oui, on a monté un collectif parce qu'en fait, on se rendait compte que quand on allait aux réunions publiques et aux débats publics, il y avait des opposants qui venaient et qui étaient super bien organisés. Ils avaient tous le même discours, mais ils étaient plus entendus que nous parce qu'ils étaient bien organisés. Donc du coup, on s'est rencontrés à la fin d'une réunion et puis on a dit, on va monter un collectif. Et puis comme ça, nous aussi, on s'organisera et puis on nous entendra aussi.
Voilà, c'est la contre-attaque des pro-Europa City. On va faire un tour?
Avec plaisir.
Vous montrer où ça se passe?
Allez. Je vais vous emmener sur le terrain de la discorde. Le terrain qui fait tant parler de notre territoire en ce moment.
Plus de 3 milliards d'euros d'investissement. 80 hectares à Gonesse, dans le Val d'Oise. Un cocktail de parcs de loisirs, d'équipements culturels, d'hôtels, de boutiques. Ambition attirer plus de 30 millions de visiteurs par an. Voici ce qu'on nous promet depuis 2006. Et en 2019, toujours pas une pierre posée.
Et alors là, ça y est, on commence vraiment à sortir de la zone industrielle. Et là, les champs, ça c'est le début du triangle de Gonesse.
Exactement. Donc là, arrivera la station de métro de la N17. Et puis vous avez encore nos écriteaux là, de rassemblement du truc.
Bon.
Et un monsieur qui...
Il veut passer ?
Qui dit qu'il va nous ouvrir.
Ah bah génial.
Je le connais en plus.
C'est un pro ou un anti ?
Un anti.
Un anti
Ouais.
Ah bah attendez, je vais le voir. Bonjour monsieur.
Et bonjour.
Et c'est quoi votre prénom ?
Michel.
Michel, vous êtes pour ou contre Europa City?
Ben moi, je suis contre le bétonnage. C'est normal. Fils d'agriculteur, voyons de meilleures terres qu'au Pas-de-Calais.
En même temps, les agriculteurs, ils ont tous vendu leurs terres ici. Hein. Il n'y a plus un propriétaire agriculteur aujourd'hui.
Ah, oui, je sais. C'est AXA qui a tout acheté. Hein.
AXA?
Oui, AXA. AXA et BNP. Et
ça fait longtemps.
Voilà. Et maintenant, on veut les bétonner. La gare, bon, la gare, elle aura lieu, ça c'est sûr. Mais nous, Gonessiens, moi, Gonessiens, j'aurais préféré avoir la gare dans Gonesse. Là, la gare qui va être là derrière.
C'est-à-dire là, pour l'instant, c'est au milieu des champs et qui
oui,
va ouvrir.
À 1,7 km de la ville.
Aujourd'hui, on se bat plus dans le sens où quel type de projet on veut sur ce territoire-là. Moi, en tant que pro Europa City aujourd'hui.
Oui, parce que je vous présente M. Matouk, lui, il est pro.
Oui, c'était les débuts.
On se croise.
Oui, oui. D'être pro, c'est bien. Chacun a ses idées.
Exactement.
Moi, je suis contre parce que bétonner les terres pour faire Europa City, les commerces. Les commerces, avec, quand on a 10 euros, on ne peut pas dépenser 10 euros chez Carrefour et 10 euros à Europa City. On en a que 10, on en a que 10.
Après,
et là, on va nous faire des commerces, des grands commerces.
Mais vous savez, quand on dit 10 000 emplois sur Europa City, même si on n'en a pas 10 000 et qu'on n'en a que 5 000,
oui,
déjà, je suis heureux.
Ah oui, c'est déjà pas mal, bien sûr.
Et alors là, on arrive au bord du terrain et on a l'occasion d'une conversation pacifique entre pro et anti. Vous, Nordine, ce que vous dites, c'est qu'il faut du boulot.
Quand il y a quelqu'un qui se pointe avec 3,1 milliards d'euros, ben moi, je ne claquerai jamais la porte au nez. J'ouvre la porte, on s'assoit, on discute. Parce que c'est pour ça que nous, on se battait. On ne se battait pas plus pour que ce soit Europa City qui vienne. Nous, on se battait pour qu'il y ait des gens qui nous disent « On vous garantit de l'emploi sur le territoire. » Et aujourd'hui, ils ont signé pour 75% d'emplois sur le territoire.
Et alors vous, Michel, vous, c'est plutôt préserver ces terres
oui,
riches.
Oui.
Et maintenant, c'est en stand-by. On attend de savoir quelle décision va être rendue par le gouvernement.
Voilà, par le gouvernement. Mais bon, l'année nous dira. Hein.
L'avion passe et on attend que le gouvernement décide si le projet passe ou trépasse.
On attend surtout que le gouvernement prenne sa position et qu'il arrête l'abandon des banlieues. Il faut surtout nous aider à garder nos jeunes.
C'est sûr. Hein. Pour nous, moi qui suis plus ancien que vous, pour être mon fils, je vois que c'est désastreux de voir nos jeunes qui n'ont pas de boulot.
Hein. Ouais. On est tombé d'accord au moins là-dessus, ouais. Sur cette urgence-là.
Sur le travail, oui, bien sûr.
Bon, bah merci Michel, merci
voilà,
Nordine.
Je vous laisse ça.
Je referme.
Je regarde.
J'ai juste appuyé normalement.
Donc il n'y a qu'à la fermer.
Les vertus du dialogue, c'est peut-être qu'on ne se met pas complètement d'accord sur tout, mais au moins on pose des problèmes autrement. En tout cas, vous pouvez aller vous faire une idée, chers auditeurs, en les retrouvant pour pique-niquer le collectif pour le Triangle de Gonesse, ce dimanche, sur place, de 10h à 16h.
Et Guy, on peut réécouter votre sujet sur franceinter.fr. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler mort et environnement. N'oubliez pas 01 45 24 7000 pour le téléphone et sur franceinter.fr, la page de la Terre au Carré et le mot-clé la taxe sur les réseaux sociaux.
Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ils savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life, my life, my life, my life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? J'suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yonkli, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après te grec. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel est dit sur la rythmique à face.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules, pour frimer des choses simples. Positivité, direct au verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, à ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. Réussi ma life.
Le duo Oxmo Puccino Orelsan, c'était ma life.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Camille Cronier sur France Inter.
Bio de chez Bio. Le cercueil bio, construit dans des matériaux rapidement biodégradables. Ne soyez plus une charge pour les générations futures.
Extrait du film Adieu Berthe en 2012, parce que le sujet aujourd'hui c'est bien les funérailles écologiques. Nous sommes avec Michel Kavnik, président de l'Association française d'information funéraire, et Gauthier Caton, directeur de Pompes Funèbres à Orléans. Et nous avons Jeff au téléphone. Bonjour Jeff.
Bonjour messieurs, dames.
Et bienvenue, nous écoutons votre question.
Eh bien voilà, moi ça fait quelques années là, depuis... au fur et à mesure que les années avancent, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on peut être inhumé dans un linceul, dans un linge en coton, et on s'offre en pâture à cette biodiversité si utile, sans faire de cercueil, ni tout ça, ni des quincailleries, ni des marbres, ni des... Voilà, un trou, un linge, avec un joli costume à l'intérieur. On nous a extrait de tous les organes encore valables.
Alors,
et puis le reste, on le donne à la nature.
Alors Michel Kavnik, cercueil obligatoire ou pas, pour répondre
qu'il
à Jeff.
Qu'il y ait inhumation ou crémation, la mise en cercueil est imposée par la législation. Bon, ensuite, il n'y a nulle obligation de faire poser un monument en cimetière, je dirais, mais un cercueil est obligatoire. Et il ne peut pas y avoir l'ouverture d'un cercueil avant 5 années, entre autres pour ce que l'on appelle des réductions de corps, afin de gagner de la place dans des concessions.
Merci Jeff pour votre question.
Alors là, vous parliez du cercueil, mais après, du contenu du cercueil. Et ça, c'est Hervé qui pose une question à ce sujet. Quelle est la tenue vestimentaire minimale dans le cercueil ?
Gauthier Caton.
Aucune.
On peut être nu dans un cercueil.
On a déjà eu l'occasion de respecter les volontés d'un défunt qui voulait être de ses dires nu comme un ver.
De ses dires.
Et donc du coup, on a respecté ses volontés.
L'état de nature.
Exactement. Aujourd'hui, en revanche, c'est à la marge, la nudité dans un cercueil. Toutefois, la prise de conscience des produits portés par le défunt et les vêtements sont au cœur du sujet.
Total acrylique ou un sky lamé.
Exactement. Les paires de chaussures avec des semelles en plastique, etc. devraient être bannies. Aujourd'hui, la réglementation n'a pas prévu de l'interdire et en tant que tel. Mais par contre, nous, professionnels, on pourrait peut-être sensibiliser les familles à cela.
Nous avons Jeanne au bout du fil. Bonjour Jeanne.
Oui, bonjour à tous. Bonjour France Inter.
Merci de votre appel. Et merci à vous de nous appeler. Quelle est votre question ?
Alors, ma question, c'est justement par rapport à la législation qui vient d'être évoquée, c'est est-ce que la législation pourrait évoluer ? Je me réfère à ce qui s'appelle l'humusation, qui est en train d'être réalisée en Belgique sous forme d'expérience, d'expérimentation. C'est donner la vie après sa mort en régénérant la terre. Ça rejoint un peu ce que disait ce monsieur juste tout à l'heure. C'est-à-dire que pourquoi on choisit l'humusation ? Il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de frais de concession, il n'y a pas de frais de pierre tombale, il n'y a pas de frais d'embaumement, il n'y a pas de charges d'entretien, et ça provoque pas de pollution des nappes phréatiques par la cadavérine. la putrescine, etc. L'humidification, contrairement à l'incinération, ne génère pas de rejets toxiques, pas de consommation déraisonnée d'énergie fossile, pas de location en colombarium, pas de détérioration des couches superficielles du sol lors de la dispersion des cendres.
Vous avez bien travaillé le sujet, Jeanne.
Au contraire, l'humidation crée un humus riche, utilisable pour régénérer les terres, un processus de remise à la terre doux, respectueux de la personne et durable.
Alors Jeanne, la question, l'humidation aujourd'hui, Gauthier Caton, je vous demande, c'est pas légal en France, hein, ça existe aux États-Unis.
Non, et... l'humidation est en phase d'expérience en effet en Belgique.
Et aux États-Unis aussi.
Pas encore légal en...
Ah, je crois que c'était arrêté au mois d'avril.
L'aquamation, il y a, mais pas l'humusation encore.
D'accord.
Sur un plan environnemental, l'humusation est le procédé le plus respectueux.
On rappelle donc, c'est en fait, un peu trivialement, retenir compost.
Inhumer un corps en pleine terre.
C'est compost.
Avec de la paille, des feuilles et des tontes de pelouse. Mm-hmm. Pour favoriser la décomposition du corps, l'objectif étant qu'au bout de 12 mois, on récupère 1,5 mètre cube de terre, donc d'humus, qui peut, parce que dans le procès, il y a une logique complète, qui favorisera la repousse de 100 arbres. Donc en effet, c'est le meilleur procédé. Toutefois, le seul inconvénient pour une famille qui choisirait ça, c'est l'absence de sépulture 12 mois plus tard, parce qu'il y a un renouvellement des terrains, et donc du coup, il n'y a pas de concession pour se recueillir à terme.
Et le ministère de l'Intérieur a également dit qu'il y avait un problème, je crois, juridique sur les particules que ça génère, qu'on ne pourrait pas les classer juridiquement pour l'instant.
Certainement.
Ce qui expliquerait pourquoi ça n'est pas encore légal en France.
Il y a également l'absence de cercueil qui pose un problème en France.
Qui pose un problème, voilà. Et qui se trouve aussi avec l'aquamation dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement. Et là, il y a eu une forte pression également en Belgique de la part de la communauté musulmane, parce que dans les rites musulmans, l'inhumation se fait en linceul, justement. Et en France, finalement, la réglementation s'oppose à la pratique. Et les musulmans vivent mal cette obligation de cercueil.
Michel Kavnik, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de mentalité? On n'est pas prêt, en fait, à changer ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'inhumation et la crémation. La crémation, c'est depuis les années 60, c'est ça que c'est légal en France.
Alors, il y a une évolution donc des rites, une certaine dématérialisation donc du souvenir. Ceci donc pour les familles, et les familles demandent des produits ou des services moins onéreux, beaucoup plus simples. Mais il ne faut pas être hypocrite. Il y a aussi une résistance du lobby funéraire, des entreprises de pompes funèbres, qui mettent véritablement un frein à de nouveaux produits, de nouveaux services, tout ce qui pourrait faire que les obsèques soient moins onéreuses.
Gauthier Caton hoche la tête. C'est vrai, cela dit, les obsèques écologiques, ça coûte moins cher, donc c'est moins de business. Pour vous, les pompes funèbres?
Alors, vu que ça n'existe pas vraiment aujourd'hui, on ne sait pas à quel prix ça a.
Faudra vous adapter.
En France, aujourd'hui, les obsèques, ces procédés-là n'existent pas sur le territoire français. En revanche, quels que soient les procédés, en tout cas, je parle au nom des indépendants, parce que c'est la corporation que je connais le mieux. L'objectif n'a jamais été de surfacturer des prestations. D'ailleurs, la dernière enquête UFC Que Choisir le prouve. Les indépendants sont moins chers. Donc, ce n'est pas l'objectif.
Mais je pense que les affaires vont quand même bon train du côté des pompes funèbres.
On a un marché qui est très stable, mais parce que le marché des seniors, en général, les personnes âgées, les maisons de retraite, les résidences seniors, le paramédical, finalement, notre activité est stable.
Nous sommes avec Sophie au téléphone. Bonjour Sophie.
Bonjour. Moi, j'ai essayé d'écrire pour mes enfants pour que les choses leur soient le plus facile possible, mes directives, au moment du décès, donc, lors du décès. J'ai choisi la crémation parce que nous n'avons pas de caveau de famille, parce qu'il est hors de question d'en construire un, parce que je n'ai pas, et mes enfants non plus, la culture des tombes, qui fait qu'on n'a pas besoin pour moi de tombes pour penser à une personne et se recueillir. J'ai demandé le cercueil, j'ai indiqué le cercueil le moins cher et le moins polluant. Et maintenant que je vous ai entendu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je réécrive?
Vous êtes perdue.
Complètement. Alors, ce que je me propose, c'est d'attendre un peu plus longtemps pour voir s'il y a des procédés nouveaux sur le marché. Mais franchement, je ne sais plus du tout quoi écrire.
Oui. Alors, Gauthier Caton et Michel Kavnik, en un mot chacun, quel serait le geste écologique à faire dans ces dernières volontés, par exemple?
Le dernier geste, c'est de ne pas accepter ni des pratiques chimiques de conservation, de choisir un cercueil le moins polluant possible, et éventuellement, s'il y a une crémation, c'est une dispersion de cendres en pleine nature ou une immersion en mer.
Gauthier Caton?
Oui, je rejoins M. Kavnik. À ça, je rajouterais le covoiturage pour se déplacer à la cérémonie, la réduction des vêtements qui sont à l'intérieur des cercueils, la consommation de plantes ou de fleurs de proximité française et pas d'origine internationale.
Pas du Kenya ou de je ne sais où.
Par exemple, parce que le chemin de l'environnement est global et il ne peut pas être que focalisé sur un produit.
Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, même si on pourrait en parler des heures de ce sujet tabou, mais finalement captivant qu'est la mort. Merci Gauthier Caton d'avoir été avec nous. Merci Michel Kavnik, et je renvoie vers le premier guide des funérailles écologiques qui vient d'être publié aux éditions Terre Vivante. Ça ne s'invente pas. France Inter, 14h.
Inter, la Terre au carré.
Du ramassage scolaire à vélo, même s'il pleut, dans vos solutions pour la planète avec Nicolas en Normandie. On prendra aussi de la hauteur dans la prochaine demi-heure avec l'aigle Victor qui a survolé, Guy, écoutez bien ça, les massifs des Alpes équipés d'une caméra. C'est très impressionnant. Mais on passe d'abord par l'île d'Edic dans le Morbihan. Dernier reportage de votre feuilleton en Bretagne, Morgane Large. Bonjour.
Bonjour Camille.
Une toute petite île, Edic, à peine une centaine d'habitants. Elle est en autonomie hydro. Mais son eau est précieuse car rare.
L'histoire de l'eau sur Edic, c'est une vieille histoire, puisque si la vie a pu être possible, et il y a une époque qui était dans les années 30, il y avait 400 habitants sur l'île d'Edic, vous voyez, on n'est plus que 100. C'est parce que bon, là, il y avait un intérêt, les gens pouvaient vivre en autarcie sur la pêche et l'agriculture, et il y avait de l'eau.
Il y avait de l'eau, nous dit Jean-Luc Chifolo, maire d'Edic. Et pourtant, il n'y a pas de cours d'eau à Edic, cette île de 200 hectares au sud du Morbihan. L'eau, autrefois, elle était dans les fontaines, le lavoir et les puits.
Avant, on allait chercher de l'eau à la fontaine, là, quand on monte du port. Là. Et puis, on ramenait à la maison, on avait des brocs pour boire et puis pour se laver. 5 ou 10 litres, 10 litres, je crois, il devait faire. À 5-6 ans, on faisait ça. Parce que l'électricité est arrivée en 63 et l'eau est arrivée dans les années 70, un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais bon, je sais que j'ai porté des mots.
Il y a une nappe sous l'île, une nappe d'eau douce qui repose sur une nappe salée. En réalité, on pompe de l'eau dans la nappe. Donc, on puise de l'eau dans des forages. Il y a 5 forages sur l'île. Il y en a 3 qui sont toujours en activité, 2 qui sont là en réserve. Et si on prend trop d'eau dans un puits, si on pompe trop, et que la masse d'eau douce est trop faible par rapport à la masse d'eau salée, c'est l'eau salée qui va passer dans l'eau douce. Donc, après, il y a un problème de salinité de traitement. Donc, il y a tout un système qui permet de surveiller ces pompes qui fonctionnent en permanence sur ces 3 forages. Et quand un puits s'est trop abaissé en termes de hauteur de nappe d'eau douce, on arrête le pompage sur ce puits et on va chercher sur un autre puits. C'est pas le tout de pomper l'eau, il faut l'emmener quelque part. Donc on a ce qu'on appelle des piscines. Chacune peut contenir 2500 m3. Donc cette eau qu'on prend dans les puits, on la pompe. S'il y a un peu de salinité, elle est pré-traitée et elle est stockée dans ces immenses piscines. Donc ça veut dire qu'on a en permanence en gros 6000 m3 d'eau disponible.
6000 m3 d'eau potable pour 100 habitants l'hiver, la réserve est surdimensionnée. Mais le challenge, c'est d'approvisionner en eau les quelques 3000 personnes présentes à la journée, l'été, à Edic. Et si la nappe phréatique est très grande, comme l'affirme le maire, il y a quand même des inquiétudes chez certains habitants.
Les forages, à l'époque où nous sommes arrivés, étaient aux environs de 25 ou 30 mètres. Et maintenant, ils ont dû descendre à 80 mètres pour assurer une réserve suffisante et équilibrée.
Le tourisme est-il responsable du mal hydraulique insulaire ?
L'eau en particulier, c'est un souci quotidien pour les Iniens.
Vous êtes économe en eau ici à Edic ou pas particulièrement ?
Oui, on fait attention. On fait attention. Cher, puis c'est notre eau en plus, mais bon.
Et il y a des gens qui disent que les touristes ils font moins attention à l'eau que les Iliens. C'est vrai ça ou pas?
Ben ouais, certains ils nettoient leur bateau aussi, leur annexe, tout. Alors que en France, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Parce qu'ils nettoient leur annexe, puis ils repartent et l'annexe elle reprend du sel et tout. Puis bon, il faut recommencer en France.
Les Iliens donc sont économes en eau. Ils font attention à une ressource qu'ils ont sous les yeux. Par contre, le rapport des gens aujourd'hui à l'eau se limite souvent à un tuyau un robinet et une facture deux fois par an. On tente à Édic de sensibiliser les touristes à la fragilité et à la valeur de l'eau.
Tout le monde n'a pas cette conscience. Hein. Sur le continent, c'est très facile d'ouvrir le robinet et puis on laisse couler l'eau. Hein. Ici, sur les îles, on se bat là-dessus. Donc on a plein de systèmes, des petits systèmes, hein, des systèmes D même, qui permettent d'éviter une surconsommation d'eau. Par exemple, on a des réducteurs au robinet qui permettent, tout en ayant un débit, en réalité, d'en prendre deux fois moins. Au camping, ce sont des boutons poussoirs qui permettent de calculer le nombre de minutes nécessaires pour prendre une douche, bien, correctement, mais pas de rester 10 minutes sous la douche. Ce qui permet, quand on a beaucoup de monde, surtout sur notre camping en été, eh bien, de pouvoir fonctionner sans gaspiller cette eau. L'eau, c'est un peu l'or noir de l'île. Hein. Sans eau, c'est-à-dire que, oui, en plein été, on ne vit plus. Hein.
Et si on veut faire un geste pour les îles en termes d'économie d'eau, en vacances, on part à la plage le matin sans se doucher avant et on prend une seule et unique douche par jour le soir.
Ouais, alors ça, on s'en rappellera pour l'été prochain parce que là, la plage, ça va commencer à être difficile. Tous vos reportages sur ces îles bretonnes, Morgane, avec les photos, sont à retrouver sur franceinter.fr et la page Facebook de La Terre au Carré.
France Inter, La Terre au Carré. Solutions pour la planète.
Nous sommes en ligne avec le département de l'Eure. Bonjour Nicolas.
Bonjour, enchanté.
Tout va bien en Normandie ?
Bah écoutez, ça se passe bien là. Le climat est normand, comme à l'habitude.
Alors, vous êtes le cofondateur de Schoolbus. Alors, school avec un apostrophe et cool pour mettre en avant le côté assez sympa de votre initiative puisqu'il s'agit de ramassage scolaire à vélo. Mais alors, j'imagine un gros vélo, ça ressemble à quoi Nicolas ?
C'est exactement ça. Donc, c'est un vélo collectif à assistance électrique. Donc, ça ressemble à un gros vélo, effectivement, de 9 places, dont celle du conducteur, qui est le nom qui a été donné au chauffeur. Et donc, ça, on a deux rangées de places sur toute la longueur du véhicule. C'est un véhicule qui fait 4,15 m de longueur pour 1,15 m de largeur et qui, donc, est homologué au titre de cycle à assistance électrique. Et donc, il est autorisé à ce titre à circuler partout où un vélo peut circuler.
Et
on a une assistance électrique pour soulager les mollets des enfants quand ça grimpe un petit peu. On a un pays qui est un petit peu vallonné, donc c'est nécessaire de pouvoir soutenir les enfants.
Parce que donc les enfants pédalent aussi, ils doivent être contents.
Ah, vous les faites bosser.
Ouais.
Vous faites ce ramassage scolaire à quel endroit dans l'Eure, dans 6 communes de l'agglomération Seine-Eure, c'est bien ça Nicolas ?
C'est exactement ça, donc on a 10 véhicules sur 6 communes de l'agglomération Seine-Eure. Donc on a, en 2016, on a créé l'activité en partenariat avec l'agglomération Seine-Eure qui a souhaité nous confier un marché d'expérimentation de ramassage scolaire en vélo collectif à assistance électrique. Donc pendant 2 ans, on a eu 3 véhicules sur une commune de la ville de Louviers, et les résultats ayant été extrêmement positifs, depuis le mois de janvier, on a 10 véhicules qui font du ramassage scolaire et du transport scolaire quotidiennement sur 6 communes et 7 écoles différentes de la communauté d'agglomération Seine-Eure.
Et donc les enfants, ils râlent pas du tout, ils adorent cette activité, enfin j'allais dire une activité, mais c'est un ramassage scolaire, mais finalement ça se transforme en activité.
Exactement, l'objectif initial du projet que l'on a créé, c'était pas seulement de proposer un moyen de transport. La création de la société, elle vient en fait d'un groupe d'amis qui étaient issus du sport collectif, du hockey sur glace, et qui portaient des valeurs de solidarité, de partage, d'écologie qui étaient importantes. On n'a pas voulu s'étiqueter ou trop communiquer sur l'écologie parce que on considérait que l'écologie était justement beaucoup trop politisée, donc on a cherché un moyen de former les enfants pour les défis qu'ils auront à relever demain. On a l'habitude de citer Pierre Rabhi qui dit qu'il faut laisser une bonne planète à nos enfants, mais surtout des bons enfants à notre planète, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire au quotidien, donc on va les sensibiliser par l'exemple, tous les jours, au développement durable, à la sécurité routière et à l'esprit d'équipe, qui sont les valeurs principales qu'on essaie de leur communiquer au quotidien.
Mais alors, vous dites tous les jours, mais est-ce qu'ils roulent quel que soit le temps, même avec la pluie ? Parce que je rappelle que vous êtes en Normandie, vous nous en parliez du climat qu'il y a aujourd'hui même.
Exactement, c'est pour ça qu'on a fait fabriquer un toit en local pour la petite anecdote, puisque l'inventeur du véhicule avec qui on est en partenariat, c'est un petit peu plus qu'une bâche, c'est une structure en aluminium qui permet de protéger de la pluie. Ça reste un vélo quand même, donc on ne veut pas être complètement isolé. Quand on a demandé à l'inventeur du véhicule avec qui on est en partenariat de nous fournir un toit, il nous a demandé pourquoi. On lui expliquait qu'en Normandie, effectivement, on avait un climat qui pouvait nécessiter la présence d'un toit. Il nous a dit qu'eux avaient parfaitement parfaitement le même climat et que quand il pleuvait, ils mettaient un poncho et ils faisaient leurs 30 km de vélo quotidien. On n'en est pas encore là en France, on peut le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on fait fabriquer des toits pour avoir une protection quand même sur le véhicule. Mais les enfants s'habillent comme ils doivent s'habiller en fonction des conditions météorologiques et ça ne pose aucun problème.
Et alors Nicolas, vous dites que ce school bus, il crée du lien, vous parlez d'un périmètre du sourire. Les gens, quand ils vous voient, ils ont automatiquement le sourire quand ils vous croisent?
Mais exactement, en fait, quand on se met en place sur un territoire, on fait donc des tournées de ramassage tous les matins qui sont les mêmes, donc on passe aux mêmes heures, aux mêmes endroits. Les gens, le matin, ont leur petite routine quotidienne, donc généralement, ils passent à peu près aux mêmes heures, aux mêmes endroits. Ils ont l'habitude de voir donc ce véhicule, qui a déjà un capital sympathique et fort, sur lequel on a en plus des enfants qui sont tous joyeux, qui sont contents d'aller à l'école ensemble. Il y a une vraie émulation positive collective qui se crée sur le véhicule. Et on demande vraiment aux passagers du véhicule de respecter tous les usagers de la route, d'être poli avec eux et d'être courtois. Donc on demande à tous les enfants de leur faire coucou quand ils croisent des voitures, quand des voitures s'arrêtent pour nous laisser passer, ce qui est le cas très régulièrement, même si on n'a pas la priorité. Les gens ont tellement l'habitude de nous voir et ils sont tellement heureux de voir des enfants qui ont le sourire sur le véhicule que ça crée réellement un périmètre de sourire sur les communes sur lesquelles on se met en place.
J'imagine que les parents sourient aussi parce que c'est gratuit ce service-là.
C'est un service qui est gratuit, donc qui est financé aujourd'hui par les collectivités publiques, donc là concrètement par l'agglomération Seine-Eure. Et puis ils ont d'autres intérêts, c'est que déjà en moyenne ils nous disent gagner entre 20 et 30 minutes le matin et le soir, donc sur les routines quotidiennes ce n'est pas négligeable. Et puis en plus ils voient également tout l'apport en autonomie que ça peut créer chez leurs enfants. On a des enfants qui gagnent beaucoup en autonomie, les parents nous disent que le fait justement d'avoir des horaires à respecter et devoir être prêt tous les matins pour l'arrivée du school bus, les enfants sont tellement heureux d'attendre le school bus qu'ils se lèvent tout seuls, ils se préparent tout seuls et ils sont prêts à l'heure. On a même des petites anecdotes d'enfants qui étaient tellement impatients qu'ils se sont retrouvés devant la porte de chez eux une heure avant notre passage parce qu'ils voulaient surtout pas nous rater. Mais on a vraiment des apports qui sont importants également pour le bien-être des enfants et pour leur santé.
Donc vous avez même pas à sortir les enfants du lit, c'est formidable. Vous organisez, Nicolas, également des semaines de sensibilisation à ce transport, c'est ça, pour que
Exactement.
Les gens soient
Exactement.
Au courant.
C'est ça, donc l'idée c'est, on a déjà énormément de communes qui nous contactent aujourd'hui pour mettre en place ce ramassage scolaire. On a aujourd'hui encore besoin de fiabiliser un peu le véhicule et de l'industrialiser pour pouvoir le fournir en grande quantité à toutes les communes qui en font la demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de développer une usine d'assemblage et de développement localement pour pouvoir assurer la réponse qu'on doit pouvoir fournir aux communes. Et donc en attendant, on propose des semaines de sensibilisation qui sont un très bon biais pour tester le dispositif et également pour créer une activité de sensibilisation au déplacement durable sur un territoire. Donc on se déplace pendant une semaine avec un véhicule et un conducteur qui sera présent sur ou une école différente par jour ou la même école sur une semaine. Et donc on a 8 enfants tous les jours qui pourront bénéficier du ramassage scolaire le matin et le soir. Et pendant toute la journée, les enfants qui n'en auront pas bénéficié auront un atelier de sensibilisation à la mobilité douce et un essai du véhicule dans la cour de l'école.
Et pour en savoir plus, on va sur votre site internet school-bus.org, school S-C-2-O-L comme cool, /scolaire. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous et bonne journée dans l'heure.
Merci de nous avoir reçu.
Avant la reprise lundi, c'est la fin des vacances.
Exactement, bonne humeur.
Et si vous aussi de bonne humeur, absolument, vous êtes à l'origine d'une initiative, Chantal Le Montagnier attend toutes vos idées sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré. Dans un instant, l'invité découverte, ouvrez grand les yeux parce que on s'envole avec un aigle observer la fonte des glaciers alpins. C'est le fauconnier Jacques-Olivier Travers qui vient nous raconter. Every thought that I ignore, another question's at my door. It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know how we got here?
throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck? Had a nation built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Begin Again, Norah Jones, c'est Thierry Dupin à la programmation musicale.
La Terre au Carré, Camille Cronier.
Bonjour Jacques-Olivier Travers.
Bonjour.
Vous êtes fauconnier et papa, est-ce que je peux le dire comme ça, de Victor, aigle pigargue à queue blanche de 9 ans et 2,10 m d'envergure. Alors, il ne faut pas m'en vouloir pour le cri hein, qu'on vient d'entendre, c'est un petit peu le seul qu'on ait trouvé qui nous faisait penser à un aigle.
Ah ouais, c'était une buse, mais c'était une buse, c'était un aigle en miniature, donc c'est pas très grave.
Bon alors Victor, qui n'est pas, qui n'est pas si avec loin. Vous Victor, c'est dommage, il a survolé en septembre 5 glaciers des Alpes et il a filmé pendant le vol.
Oui, Victor a la particularité d'être aujourd'hui le seul aigle caméraman au monde. Il est capable d'emmener...
JRI,
exactement. Il prend pas le son, cela dit, lui. Mais en fait, voilà, la particularité, c'est qu'on fait ça depuis 10 ans maintenant. Au début, on l'a fait pour... parce que moi, mon travail, c'est d'apprendre à ces oiseaux à voler, à retourner dans leur milieu naturel. Et souvent, ils s'éloignaient de moi, je les perdais de vue, je savais pas trop ce qui se passait. Et l'idée m'est venue de mettre une caméra sur le dos pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient quand ils étaient loin de moi. Et en fait, quand j'ai vu les premières images, j'étais estomaqué, je les ai mis sur internet, elles ont fait un buzz incroyable et j'ai compris qu'on avait non seulement pour nous un moyen pour les fauconniers de comprendre ce qu'on faisait, mais pour le grand public de les sensibiliser à l'environnement et à ces aigles en tout cas.
Mais les aigles, ça les dérange pas d'avoir une caméra sur... Vous la mettez où? Sur la tête? Sur le dos?
Non, elle est mise sur le dos, ils ont un harnais, donc ils ont un harnais qui est fabriqué sur mesure pour eux, hein, donc tout est adapté.
Pas.
Ouais, comme un petit sac à dos. Alors je dis pas que ça les dérange pas, tous les aigles sont pas capables de faire ça, et Victor est surtout le seul aigle qui est réellement capable de le faire sur des distances incroyables, puisque les vols que vous évoquez faisaient pour certains plus de 6 km. Ils partaient à 6 km de moi pour me rejoindre. Donc là, on est vraiment sur du hors norme.
Mais alors, comment vous faites pour le guider une fois qu'il a décollé? S'il vous voit plus, il fait quoi? Il part à l'autre bout du monde?
Il a une chance inouïe, Victor, c'est qu'il a une vue qui est 10 fois meilleure que la mienne. Donc, il est capable de me repérer parfaitement jusqu'à 4 km. Au-delà de 4 km, je l'aide un petit peu. Bon, ceux qui me suivent un peu, j'ai toujours une veste orange. C'est pas très sexy, mais par contre, c'est une couleur qu'on trouve pas dans la nature. Et puis, quand je suis vraiment très loin, je mets deux petits drapeaux orange à côté de moi. Ça lui permet de me repérer parce que quand on est très haut, il a une vision qui peut aller jusqu'à 50 km. Donc, il faut au moins qu'il me trouve. Et une fois qu'il a repéré, il sait très bien que voilà, ben, il va venir me rejoindre et qu'on va passer un moment ensemble.
Donc vous l'attendez, il part d'un point A, vous l'attendez au point B et lui, dès qu'il part du point A, il vous voit, il sait où il doit aller.
Oui, alors on est sur des animaux qui sont des planeurs. Attention, les aigles, c'est pas des pigeons. Un pigeon va se déplacer en battant des ailes sur des kilomètres. Un aigle, il n'en est pas capable. Lui, il faut qu'il utilise les courants d'air chaud ou le vent pour se déplacer. Et d'autant plus qu'avec la caméra, s'il bat des ailes, tout de suite, on a des mouvements qui sont... Donc on le fait partir en principe d'assez haut et on le fait glisser sur plusieurs kilomètres pour venir me rejoindre, ce qui nous permet de faire ces images assez incroyables.
C'est mieux qu'un drone, un aigle, hein? C'est quoi les avantages de Victor?
Moi, je trouve que ça n'a rien à voir parce qu'un aigle qui filme, c'est la nature qui filme la nature. C'est lui qui va choisir où il veut passer, où il a envie d'aller. Le drone, en plus, n'est pas capable d'aller aussi loin, aussi près du relief. Donc, non, pour moi, c'est incomparable. Puis, quelque part, c'est le rêve de l'homme. Vous avez l'envie, c'est de nager avec les dauphins, c'est de voler avec les aigles. Là, vous êtes sur son dos, vous voyez ce qu'il voit. Non, c'est vraiment une une autre forme.
Mais dans ces cas-là, la météo, elle est importante, j'imagine, dans les paramètres ou pas?
Oui, alors la météo, elle est importante pour deux raisons. La première, elle est importante pour l'oiseau, parce qu'effectivement, il n'est pas capable de se déplacer dans des vents qui sont trop contraires ou des choses comme ça, donc on est contraint par ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la caméra sur le dos, et quand vous filmez, vous savez que s'il y a une goutte d'eau qui tombe sur la lentille, bah, votre plan, il est foutu. Donc voilà, il faut qu'on vole toujours dans des conditions où il n'y ait pas de pluie et un vent correct.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que c'est vous qui apprenez à voler à ces aigles. Vous les avez, ce sont donc des pigargues à queue blanche que vous élevez dans votre parc, les aigles du Léman. Comment on fait pour apprendre à voler un aigle?
Ouais, je sais que ça peut paraître surprenant, mais il faut bien comprendre que moi, j'utilise des animaux qui sont captifs, nés en captivité. Ils sont jamais sortis de leur volière. C'est un petit peu, comme je dis souvent, si vous preniez un enfant, vous l'auriez élevé dans un placard pendant quelques années, d'un seul coup, vous lui demandez de sortir, de se dresser, de marcher, il saurait pas faire.
Ouais, la comparaison.
Elle est un petit. Oui, non, mais voilà, c'est simplement pour que ça rentre bien dans la tête des gens. On a la même chose, c'est-à-dire que l'oiseau n'a pas de muscles, n'a pas de système cardiovasculaire développé. Donc tout ça, c'est un apprentissage.
Mais comment vous faites alors? Vous pouvez pas voler, vous?
Non, si on m'a souvent dit que j'étais un coach sportif pour aigle. Au début, ça m'a tellement énervé que je refusais le truc. Mais en fait, c'est vraiment ça, en fait. L'oiseau se déplace au minimum à 60 km/h, jusqu'à 200. Donc, je suis incapable d'aller à ces vitesses-là. Donc, je suis obligé d'utiliser des outils qui me permettent d'aller aussi vite que lui dans l'espace naturel, que sont le parapente, que sont le kayak, le cheval, enfin, peu importe.
Donc, vous l'accompagnez en parapente,
alors,
par exemple?
C'est plutôt lui qui m'accompagne, quand il est gentil, parce que, en parapente, pour vous donner une idée, ma vitesse à moi est de 40 km/h, la sienne au minimum est de 60. Donc, c'est un peu comme votre chien quand vous partez en balade, faut qu'il tourne autour de vous sans arrêt pour rester avec vous. Donc, c'est lui qui fait l'effort.
D'accord, et c'est comme ça que vous leur apprenez et qu'ensuite ils volent de leurs propres ailes, on peut
oui,
le dire.
Oui, et c'est ça qui est très intéressant, parce que quand on a commencé ces expériences il y a 10 ans, les scientifiques n'y croyaient pas beaucoup en disant voilà, un oiseau qui est né en captivité, il a perdu. En fait, l'instinct, il est à fleur de peau. Dès qu'on le titille, il se réveille et non seulement on est capable de leur apprendre à voler, mais on est capable de leur apprendre à chasser et à pêcher. Donc on ouvre une porte pour les remettre un jour dans la nature.
Alors l'idée d'envoyer Victor filmer les sommets alpins, c'était pas que de faire de belles images, même si elles sont effectivement très impressionnantes, c'est avant tout pour alerter sur l'état des glaciers en Europe.
Ouais, parce que moi je suis un habitant des montagnes, hein. Je suis à côté de Chamonix et je suis sidéré par le fait que aujourd'hui on est en train de perdre la fontaine d'eau de l'Europe. C'est-à-dire que on regarde vers l'Amazonie, on regarde vers le Groenland en disant ça va mal, mais où c'est le pire, c'est dans les Alpes. Dans les Alpes aujourd'hui, je dis souvent le réchauffement climatique au niveau de la planète, il est de 0,8. Dans les Alpes en général, il est de 1,5 et dans le massif du Mont-Blanc, on est à 2 degrés. C'est-à-dire qu'on est déjà aux pires prévisions du GIEC pour 2050. Aujourd'hui, vous avez des glaciers au-dessus de Saint-Gervais. Si on les vidange pas tous les ans, ils se cassent la figure sur Saint-Gervais. Le glacier italien, là, est en train de tomber. Et les Suisses, qui ont un grand sens de l'humour, viennent de faire leur premier enterrement de glacier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un glacier qui a disparu sous leurs yeux. Et ça, c'est pas à l'autre bout de la planète, hein. Ça, vous prenez votre train comme moi aujourd'hui, vous allez à Chamonix, vous allez voir, ils sont tous en train de partir, les glaciers. Donc, ça, il faut qu'on alerte là-dessus. Parce que notre paysage de montagne va changer, la ressource en eau va changer, tout va changer. C'est-à-dire que on l'a pour l'utilisation des humains avec la neige, le ski qui est en train vraiment de se transformer, mais pour les aigles pêcheurs qui m'occupent, l'eau qui va ne plus fondre en été ne va plus alimenter les lacs sont en train de se réchauffer, on est en train de perdre les poissons, donc c'est toute la chaîne qui est en train de se casser la figure en montagne.
Et vous aidez la science également avec ces images?
Oui, alors nous on a un partenariat avec l'Agence spatiale européenne parce qu'en fait, si vous voulez, les scientifiques depuis des années nous alertent sur ce phénomène-là. Tout le monde le sait, on n'a pas inventé l'eau chaude en disant que les glaciers fondent. Enfin, voilà. Par contre, ce qu'on montre avec Victor, c'est la vitesse à laquelle ça fond. Aujourd'hui, quand Victor survole les glaciers, vous voyez qu'on a perdu à peu près la moitié de la masse. Donc, et ça, on l'a perdu en quelques années. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je sortais du tunnel du Mont-Blanc, j'allais caresser la glace. Aujourd'hui, vous sortez du tunnel du Mont-Blanc, vous marchez 1h30 à 2h avant de toucher la glace. Donc, c'est à une échelle d'une génération. 2025, j'étais au Jungspitze, qui est le dernier grand glacier d'Allemagne. On disait qu'il va disparaître en 2040. On pense qu'il va disparaître en 2025. 2025, c'est demain. Et ça, c'est vraiment sous nos yeux et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Voilà.
Alors, Jacques-Olivier Travers, vous dites protéger l'environnement, mais c'est aussi l'aigle qu'il faut aider à protéger.
Oui. Alors, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui que on peut raconter tout ce qu'on veut, on n'arrêtera pas. Les glaciers vont, pour les trois quarts, disparaître dans les Alpes. Et maintenant, il faut qu'on aide ces espèces à passer ce cap. Parce que les glaciers vont fondre beaucoup plus vite. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'essayer de donner à ces espèces une petite période tampon pour qu'elles puissent s'adapter naturellement et rester dans cet environnement.
Parce que Victor, il est menacé d'extinction, comme on dit?
Alors, Victor, il a disparu de France depuis 200 ans. On a quelques individus qui reviennent, Dieu merci, par le nord de l'Europe, qui les a beaucoup protégés. C'est l'emblème de l'Allemagne, cet aigle. Donc, on a un couple ou deux qui reviennent maintenant nicher en Moselle. Et on était très contents. On se disait, chouette, ils vont revenir naturellement. Sauf que ce qui se passe me rend pas très optimiste pour la suite. C'est-à-dire que ce retour risque d'être bloqué rapidement parce que la qualité des eaux est vraiment pas bonne. La température des eaux, on n'en parle pas beaucoup, mais les lacs de montagne sont en train de se réchauffer à une vitesse mais qui est incroyable, c'est-à-dire plus 10 degrés sur les 10 dernières années pour certains lacs. Et donc, les poissons n'ont plus de période pour se reproduire. Et les poissons, c'est la ressource des aigles. S'il n'y a pas de ressources alimentaires, il n'y aura pas d'aigles. Donc voilà, c'est un peu toute cette chaîne-là. Et ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on anticipe. Et ça, on n'en parle pas assez, il faut vraiment anticiper.
Mais l'aigle, il fait un peu peur aux gens, non? C'est impressionnant, ouais, un aigle.
Oui, ça, c'est vrai que c'est un gros problème qu'on a, de toute façon, en France, en général, avec les prédateurs. Vous parlez d'ours, de loups, d'aigles, ça fait peur. Et les aigles, on a toujours, alors que ça fait, les aigles mangent pas les enfants. Alors, j'étais venu il y a quelques années
arrêtez
à Paris.
Avec les enfants, hein.
Non, ils les attaquent pas.
Vous leur en voulez, là.
Et avant de faire tous ces vols, j'avais fait des vols urbains, vous avez peut-être suivi, j'ai fait voler mes aigles depuis la Tour Eiffel, à Londres, à Berlin, ouais, à Dubaï, en pleine ville, au milieu des gens, pour justement leur montrer qu'il y avait aucun risque et qu'on pouvait remettre ces oiseaux dans la nature. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que on pourra les remettre dans la nature que si on a une adhésion populaire. Si les gens les volent. Si les gens les volent pas, il n'y a aucune chance qu'on puisse remettre des aigles dans la nature. Donc, je profite de votre passage à l'antenne. Supportez-nous. Les aigles n'ont pas mangé vos enfants, ni vos chiens, ni vos chats, ou quasiment pas. Donc, aidez-nous, quoi.
On a une question bonus très rapide. Ça pèse combien, un aigle? Ça vient de la régie.
Alors, c'est assez bizarre parce
Victor,
que.
Victor.
Ouais, Victor fait 4 kilos. Mais c'est les aigles, la particularité, c'est que les femelles sont plus grosses. Sa femelle fait à peu près 7 kilos. Donc, elle fait quasiment le double de Victor.
Merci beaucoup, Jacques-Olivier
Merci
Travers.
À vous.
Merci. Eagle Wing, c'est le nom du projet de vol de l'aigle Victor que vous pouvez retrouver évidemment sur Internet et sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. Merci d'avoir été avec nous et à demain.